Alors aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier parce que je reçois Garance Doré. Alors, beaucoup Garance Doré, beaucoup de personnes la connaissent, mais si vous la connaissez pas, c'est une personne qui s'est fait connaître via son blog à l'origine, qui est devenue influenceuse, mais qui est aujourd'hui entrepreneur, qui a un podcast, qui fait mille et une choses, qui a décidé de partir vivre à New York. Et d'ailleurs, on a enregistré cet épisode à New York, puis à Los Angeles. Et donc voilà, je laisse place à cette conversation. Allez, Vlan, c'est parti. Donc bonjour à tous, je suis avec Garance Doré. Garance, on se connaît depuis longtemps,
Toujours.
depuis un petit moment. Et forcément, tu fascines énormément de gens par ton lifestyle, par ce que tu as fait aussi, les bouquins que tu as produits, le studio, enfin tout. En gros, il y a vraiment pas mal de choses. Et moi, j'avais envie qu'on parle un petit peu de toi. Alors, je ne sais pas trop, en général, sur mon podcast, de podcast autour des personnes en tant que telles, mais sur une personnalité, je trouve ça parfois intéressant. Et en l'occurrence, tu as quand même fait pas mal de choses et tu as été à l'initiative de pas mal de trucs. Comment tu as envisagé l'évolution sur les 10-15 dernières années du métier enfin, de ton métier finalement, comment t'as envisagé ça au fur et à mesure? Parce que ça a beaucoup bougé quand même entre-temps.
Ouais, en fait, je pense qu'il faut commencer par se dire que j'ai jamais vraiment envisagé ça comme un métier ou une carrière. Ça s'est fait vraiment naturellement et toutes les fois où j'essaie d'envisager ça comme une carrière, ça l'a pas fait pour moi. Je crois que les 10, 12, ça fait 12 ans en fait que j'ai ouvert mon blog et je crois que les 12 dernières années, elles m'ont bien montré en fait l'apprentissage, ça a été personnel. Après, on peut parler évidemment du côté business et tout avec
Ouais.
plaisir. Mais personnellement, ça a été, continue à faire ce qui te fait plaisir, à chercher les choses qui t'intéressent. Et c'est tout, quoi. Ça a été mon seul guide. Et il y a eu effectivement beaucoup de changements, beaucoup de choses pendant 12 ans. J'aime pas trop faire la même chose à répétition parce que j'écris et tout. Et donc, j'ai besoin de rester inspirée. Donc voilà, donc c'est la base en fait, ça a été ça. Ça a été comment garder mon authenticité. Il y a des moments où elle a été en danger et en général, je me suis rattrapée enfin, assez rapidement en me disant oh là là, ça va
Là,
pas.
ça part
Ouais,
en
ça
vrille.
part en couille. Ouais, on peut dire des gros mots sur ton podcast?
On peut dire ce qu'on veut. Ça, c'est l'avantage du podcast. Et alors, du coup, enfin, moi, ce que, enfin, parmi les gens qui font des trucs en ligne, il y a plusieurs typologies de personnes. Et en particulier, quand je vois ceux qui durent, c'est souvent qu'il y a un talent à l'origine. Toi, c'est plutôt le dessin, l'illustration. À
Non,
l'origine,
moi, mon
non?
talent principal, c'est de raconter des histoires.
Ah ouais, tu dirais ça, c'est marrant.
Ouais, ouais,
Ah,
ouais.
c'est drôle.
Ouais,
Raconter
ouais.
des histoires. Et du coup, t'as toujours raconté des histoires, au final.
Toujours. Et je pense que c'est l'une des choses les plus importantes. D'ailleurs, notre première retraite, c'était une retraite créative qui s'appelait The Art of Storytelling. En gros, l'art de raconter des histoires.
Et justement, parce que tu parles des retraites, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont arrêtés, enfin, en tout cas, il y a des gens qui me suivent, qui vont pas te connaître. Donc, et du coup, c'est vrai que j'aurais dû te présenter. Je l'ai pas fait. Je le ferai dans l'introduction, c'est pas grave. Du coup, il y a des gens qui sont restés au studio Doré. Donc, en fait, dans tes activités, ce qui est intéressant, c'est que toi, donc, t'es parti d'illustration, t'as créé un blog,
Ouais.
t'as fait un certain nombre de partenariats avec des marques. Ensuite, alors, je sais pas exactement, t'as créé ton atelier.
Ouais.
Entre-temps, alors, je sais pas quand est-ce que t'es arrivé à New York dans tout ça,
Je sais
mais
plus, mais
entre-temps, t'es
bon,
parti à LA, en
c'est il
tout
y a 10 ans,
cas.
12, c'est peut-être 8-9 ans, un truc
Et dans
comme ça.
donc ton business model aujourd'hui, enfin ton modèle économique, quoi, on peut appeler ça comme ça,
Ouais.
il y a eu effectivement cet atelier, enfin il y est toujours d'ailleurs, et
Ouais.
c'est combien de personnes aujourd'hui?
On est une douzaine.
D'accord, et donc c'est un
Ouais.
atelier créatif pour les marques? C'est...
Alors en fait, tu vas avoir un problème avec moi, c'est qu'il y a beaucoup de choses que je fais qui sont un peu indéfinissables.
D'accord, ok.
Donc, et je te dis pas ça, c'est juste qu'on s'en, à chaque fois qu'on a essayé de se définir, on s'est planté,
Ouais.
ou ça nous a pas plu, ou on sait pas, on s'y est pas retrouvé. Donc en fait, on cherche plus à essayer de se définir. Voilà, donc c'est assez difficile de définir ce que je fais. On change tout le temps. Effectivement, on collabore avec des marques. Ça, c'est un peu la base pour le moment. Mais honnêtement, on a mis en place une équipe de commercial, de vente et de partnership l'année dernière.
Ah oui, effectivement.
Donc, on a travaillé pendant 10 ans. Et tu vois, on peut dire que c'est complètement con, qu'on aurait pu le faire avant. On peut dire aussi que non, nous, on est des artistes et qu'on travaille différemment. Chacun a son point de vue là-dessus. Mais le fait est que pendant 10 ans, on a travaillé, on n'avait pas d'équipe commerciale, quoi. J'avais un agent qui s'occupait des gens qui nous appelaient. Et voilà, et puis il y a 2 ans, on a changé un petit peu notre manière de bosser, parce que moi, j'ai pris un petit peu de distance avec le day-to-day, le quotidien du blog, en fait. Parce que j'ai une théorie sur le fait qu'après 10 ans, on n'a pas le même jus créatif et qu'il faut arriver à laisser la place à d'autres. Et ça se vérifie assez souvent. Et c'est pas une mauvaise chose. Et donc on a changé notre manière de travailler. Et à cette occasion-là, on a embauché une équipe commerciale qu'on adore, avec qui on bosse, mais qui a les mêmes valeurs, évidemment. Et on n'est vraiment pas... Enfin, je crois que les gens qui me connaissent et qui suivent mon travail le savent. On n'est pas là pour... c'est pas le commercial à tout prix, quoi.
Oui, non, mais ça, c'est évident. Voilà. Et alors, du coup, en fait, ce que je trouve intéressant dans ton profil, tu t'en rends pas compte, je suis pas sûr que tu t'en rendes compte, en tout cas, c'est que tu as été vraiment à l'avant-garde de pas mal de choses. Le blog, c'est arrivé hyper tôt.
Ouais.
Ensuite, le podcast, c'est arrivé hyper tôt aussi. L'atelier, c'est arrivé très tôt. Maintenant, il y a les retraites. Et il y a un truc qui est lié aux retraites. Donc, j'aimerais bien lier les deux. On en a déjà parlé ensemble, mais pas sur le podcast. En fait, tu sais, sur ce fake world qu'est Instagram. Donc, Instagram, c'est un monde où il y a énormément de vies rêvées, où les gens ne racontent pas du tout la vraie vie. Toi, tu as été l'une de celles, je crois, qui a commencé à t'ouvrir vachement plus sur Instagram et sur ton blog, même si tu l'as toujours fait quelque part.
Ouais, moi c'est comme ça que je travaille, en fait. Je me suis toujours, enfin, au contraire, pour moi Instagram, ça a été très difficile comme transition, parce que c'est un endroit très difficile pour le storytelling, parce que on peut pas écrire comme on veut, la mise en page est horrible, on peut pas mettre autant de mots qu'on veut, les gens vont super vite, donc il y a pas, enfin, quoi que maintenant les gens ont commencé, comme ils font tout sur leur téléphone, ils ont commencé à prendre l'habitude de lire même des textes plus longs sur Instagram, mais j'ai pas du tout la même voix, surtout que sur mon blog, mes textes sont traduits en français et en anglais, donc il y a quand même, c'est quand même vachement, vachement différent. Donc pour moi, Instagram, ça a été très dur, et ça l'est encore et toujours. Enfin, ce sera toujours pour moi un médium compliqué. Je parlais récemment dans un de mes posts du fait que les images sont devenues, je sais pas comment on dit en français, mais en anglais on appelle ça des commodities. C'est des produits, en fait. Les images, ça l'a toujours été, mais quand même, sur Instagram, c'est vraiment, ça va très très vite. On peut voir une image sublime et pas passer plus d'une demi-seconde dessus. Et ça, pour moi, ça sera toujours quelque chose de difficile, parce que... Et c'est pour ça que j'ai commencé le podcast il y a très longtemps, par rapport à la mode du podcast. C'est parce que très vite, je me suis dit, mais enfin, un endroit où on peut prendre le temps de parler et d'écouter vraiment les gens. Parce que je supportais pas cette espèce de... En même temps, j'aime, hein, comme tout le monde, c'est un peu addictif. Hein, c'est très addictif,
c'est
même.
Addictif, hein.
Mais cette rapidité, cette vacuité et tout, ça me bouffait vachement. Donc tout de suite, je me suis dit, oh là là, voici un médium dans lequel je pourrais, tu vois, prendre de la place et parler avec les gens et vraiment les écouter.
Mais moi, j'ai l'association, enfin, je sais pas, mais peut-être que je me trompe, ou c'est... Mais j'ai l'association, par exemple, tu vois, quand t'as parlé de ta difficulté à avoir des enfants, etc., j'ai l'association qu'il y a eu comme un tournant... d'ouverture, alors avec toujours cette complexité, j'imagine, enfin, j'aimerais bien avoir ton point de vue là-dessus, de où est-ce que tu places la limite quand tu t'ouvres à ce point-là.
Non, moi je pense qu'il y a la seule limite, pour moi, c'est les autres, c'est-à-dire que ne pas raconter la vie privée des gens qui vivent avec moi, c'est la seule limite. J'ai aucune limite, mais vraiment, moi, ce que je pense, c'est que quand on sait raconter des histoires, c'est-à-dire écrire, mais je parle pas tellement même pas de l'art de manier les mots, mais de parler, de raconter une histoire, on peut tout raconter, tout. Je veux dire, quand on est écrivain, quand on est conteur, on peut, et il faut tout dire. Et c'est ça, moi, j'ai jamais eu aucun problème avec ça. Moi, pour moi, c'est une manière de sublimer ma vie, de lui donner du sens. Donc, c'est très bon, et c'est une très belle manière de prendre la perspective. Et je sais aussi que les gens s'y reconnaissent. J'ai jamais eu des choses à cacher, en fait. Enfin, j'essaie de me creuser la tête pour me dire peut-être qu'il y a des trucs que j'ai cachés, mais non, la seule limite que j'ai, c'est le respect de la vie privée des gens qui m'entourent.
Oui,
donc, s'il y a des choses dont je ne parle pas, par exemple, je viens de traverser une rupture, je ne vais pas m'étendre là-dessus, ça ne regarde pas que moi. Mais je l'aurais fait sinon. Au contraire, je trouve que la chose la plus intéressante dans la vie, pour moi, c'est l'aventure humaine.
C'est partager ses expériences.
De toute façon, partager ses expériences, ça, c'est une évidence, mais pour moi, les gens me demandent toujours, mais qu'est-ce qui t'inspire, qu'est-ce qui continue. C'est moi-même, c'est ce qui se passe à l'intérieur de moi et c'est mon aventure humaine et c'est ça que je partage.
Et du coup, les retraites, elles arrivent dans quelle dynamique
De la curiosité, du plaisir, un vrai désir de partager des moments spéciaux avec mes lecteurs. C'est vraiment, tu sais, toujours, enfin, pour moi, ça commence toujours par une envie. Un peu égoïste, quoi. Un truc, ce serait cool de faire ça. Voilà. C'est tout, quoi.
Ouais,
ça s'arrête là. Et d'ailleurs, les retraites, on fait pas ça pour l'argent. C'est un truc de plaisir. C'est beaucoup trop petit pour pouvoir imaginer en tirer un profit quelconque. Mais on en tire énormément d'inspiration. On se rapproche de nos lecteurs. Nous-mêmes, on choisit des retraites dans lesquelles. Enfin, moi, c'est une retraite que je fais pour moi, en fait. C'est pour apprendre des trucs.
Ça vaut le principe.
Et je les partage. Hein. Ouais, c'est
comme
ça.
Quand tu fais ton podcast, tu reçois des gens parce que tu
Parce que j'ai envie de les rencontrer. Je suis intéressée. J'ai envie de leur poser des questions. Mais c'est comme ça. Enfin, moi, pour moi, c'est comme ça qu'il faut faire. Et donc, c'est vrai que d'une certaine manière, je me retrouve un peu souvent au devant des modes, en fait. Mais c'est juste parce que je pense que tant que j'essaye pas de. Tu vois, par exemple, j'ai beaucoup parlé et j'ai pas mal souffert de cet attachement que je pensais avoir, ou du moins, je m'étais fait connaître par la plateforme qui est la mode.
Ouais.
Alors, on en pense ce qu'on en veut, c'est bien, c'est horrible, machin. Moi, ça m'a passionnée pendant quelques années, comme si j'étais une exploratrice dans la jungle ou un truc comme ça. C'est-à-dire que je trouvais ça génial, fascinant, ces gens me fascinaient et tout ça. Et puis, du moment où j'ai commencé à devenir un insider, qu'on m'ouvre toutes les portes et tout, finalement, mon safari, il était un peu fini, quoi.
Ouais.
Et le problème, c'est que moi-même, j'avais pas encore l'espèce de distance intellectuelle et je me disais, mais non, c'est ça qui m'a fait connaître, j'ai ma place, je suis assise au premier rang, je gagne plein de sous, on me fly en première autour du monde, c'est ça la vie, quoi. Ouais. Bravo, j'y suis arrivée.
En tout cas, tout le monde, c'est la vie rêvée, a priori, quoi.
Bah ouais, mais bon, le moment où on y arrive à cette vie, ça nous prend quand même un petit peu de. Il faut beaucoup de courage, en tout cas, pour dire non. Et puis, déjà, pour comprendre, en fait, mais pourquoi je me sens mal alors que j'ai tout. Tu vois et puis, alors, c'est ce moment-là, et puis ça, on le voit dans beaucoup d'artistes, c'est le moment où on s'accroche à cette espèce d'image que les autres se sont fait de nous. On se dit, bon, alors, c'est ça qui a marché, donc il faut que je continue à faire ça. Alors, c'est là que j'ai commencé à me sentir assez mal. Et ça m'a pris là du temps pour me dire, mais t'es pas obligé, quoi.
Ouais.
Mais ça m'a pris du temps, il a fallu que je souffre pour en sortir.
Et puis surtout, je crois que tu sais, c'est un peu vraiment, je pense que socialement, c'est un peu là. Enfin, tu peux pas demander plus, c'est-à-dire que tu voles en première classe, tu fais les plus gros défilés, t'es avec les gens connus, machin truc. A priori, tu vois, t'as envie de te dire, ben, c'est une.
Ouais, voilà, c'est bon, c'est cool, on continue. Pendant 30 ans.
Exactement.
Ouais, mais en fait, moi, j'avais pas encore à ce moment-là, je dis pas que je l'ai fait aujourd'hui, mais compris ce qui faisait battre mon cœur.
Ouais.
Hein, donc, moi, j'étais. Il faut quand même, pour les gens qui écoutent et qui me connaissent pas, je suis née en Corse, je suis une fille d'immigrée. Mon avenir. Bon, j'ai des parents qui sont intelligents et cultivés, mais. J'avais pas de possible. Pour moi, habiter à Paris, c'était un truc, c'était super loin, quoi. Avoir une carrière créative, c'était genre, mais je pouvais même pas imaginer. Donc, évidemment, quand d'un coup, il y a les choses qui prennent comme ça une espèce d'ampleur, est-ce que j'ai le droit de dire que je suis pas bien? Pas forcément. Et puis,
ouais, compliqué.
Donc il y a eu toutes ces choses-là. Ça, c'était génial parce qu'en fait, bon, alors l'une des grandes merveilles de quand on est un raconteur d'histoire, c'est que tout a de la valeur. C'est-à-dire les hauts comme les bas. Quoi. Moi, je vois pas la vie comme un truc où il faut toujours être heureux. Au contraire, je puise beaucoup d'inspiration dans mes souffrances.
C'est impossible, en fait. Enfin...
Ouais, c'est... Non, il y a des gens qui le font, mais je pense qu'ils passent à côté de leur vie, un petit peu. Voilà.
C'est-à-dire qu'ils se mentent à eux-mêmes. Tu peux te mentir à toi-même, mais le principe du bonheur, c'est forcément des moments up. Donc, pour avoir des moments up, t'as forcément des moments down, tu vois, c'est pas...
Ouais. Enfin, en tout cas, moi, c'est bon. J'ai des bons moments down, mais j'ai des super moments up aussi. Donc, je sais plus pourquoi je te disais ça. Donc il n'y a pas de moment où tu te dis oh là là, j'ai raté ci, ou oh là là, je me suis plantée. Tu dis non, c'est intéressant, comment je vais pouvoir en parler, qu'est-ce que je vais en faire. Pour moi, c'est vraiment cette idée de sublimer, quoi. Comment je vais en faire du miel, enfin quelque chose de beau, des histoires à raconter aux gens qui m'entourent, et puis voilà.
Et tu te poses la question de l'utilité aux gens, enfin.
À quoi ça sert aux gens ?
Ouais.
Non, ça part d'un truc égoïste en fait.
D'accord.
Et je compte bien le garder comme ça, de la même manière que je me pose pas la question de oh là là, ça fait 12 ans que je parle de moi. Pas du tout, parce que j'ai une simplicité par rapport à ça. Ça me prend pas la tête. Moi j'adore écouter les gens parler d'eux, et je me dis que si j'en parle bien, ben encore une fois, on n'est jamais deux fois la même. On passe, puis en plus, bon, moi j'ai une vie qui est un peu bordélique, donc c'est assez drôle quand même. Enfin, même pour moi, hein, je suis assez contente finalement. J'arrive pas à me poser, j'adore déménager.
C'est clair.
Je garde jamais un mec, enfin, je sais pas quoi. Donc, mais c'est un peu un choix aussi, tu vois. Puis j'ai eu des moments difficiles et tout, mais pour moi, c'est tout ça. Je sais pas, c'est le sel de la vie, quoi.
Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et alors, du coup, justement, alors il y a plusieurs questions qui me viennent. Alors, je vais commencer par. Je vais commencer par les endroits où tu vis. T'as quitté la France.
Ouais.
Ça fait combien de temps ?
Ouais, ça fait peut-être 9 ans, 8-9 ans.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
C'est un petit moment.
Ouais.
Donc t'as quitté la France. Maintenant t'as quitté New York.
Ouais.
Enfin, plus ou moins, parce que t'es quand même là régulièrement.
Ouais.
Quel regard tu portes sur ces mouvements-là ?
Mes déménagements ?
Pas sur les déménagements, sur le fait de plus être en France, donc d'être dans cette ville de New York, puis après dans cette ville de LA, qui sont quand même elles ont des énergies hyper différentes, ces villes, en fait.
Ben, c'est un peu des pôles pour tout le monde. Je crois que il y a beaucoup à dire là-dessus. Surtout que tu me demandes pas à Paris, parce que Paris, c'est pas ma ville d'origine non plus.
Non.
Moi, j'ai commencé à écrire mon blog, j'étais à Marseille.
Ouais.
Que je sais que tu connais très bien.
Mmh.
Donc, il y a une espèce de... Alors, il y a plusieurs choses.
Ouais.
Je pense que l'une des forces les plus profondes, c'est m'éloigner à tout prix de la Corse et de là d'où je viens et tout. Malgré que j'adore cet endroit, j'adore ma famille et tout, j'avais vraiment besoin de découvrir qui j'étais. Et là, je pense que je suis trop émotionnelle ou quoi, mais être près de moi, enfin de là où je suis née, de ma jeunesse et tout ça, c'était trop dur. Et je me suis rendu compte très vite que plus je m'éloignais géographiquement, et plus j'étais libre. Et crois-moi que dès que je trouve un fil de liberté, je le prends et j'y vais à fond. Et donc là, je crois que je pourrais pas aller plus loin que Los Angeles, parce que là, je suis vraiment au bout du monde. Et je crois que c'est bien, c'est vachement bien. Et d'ailleurs, c'est drôle, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'aspects de Los Angeles qui sont comme la Corse.
Ah ouais,
mais
bah, le temps déjà,
mais... Bah, la météo, t'as les palmiers, t'as plein de petits trucs comme ça que je retouche, je me dis oh là là, ça me rappelle. Et en même temps, avec le bénéfice d'être loin de la source de...
Mais New York par rapport à LA, ou LA par rapport à New York, c'est une ville dure, hyper business-centric, qui va à 100 à l'heure, enfin voire à 200. LA, c'est pas la même énergie.
Non, pas du tout. Ben, en fait, moi, ça correspond à des périodes de ma vie.
Ouais, c'est pour
j'ai
ça.
Bougé de Paris à New York quand mon blog a commencé à exploser et tout ça. Bon, aussi, j'étais un peu amoureuse d'un mec, mais j'aurais déménagé quand même. Et d'ailleurs, c'est drôle, parce que maintenant que je viens de me séparer de mon oncle, je dis, tu vas rentrer en France, mais. Mais moi, les endroits sont pas nécessairement liés, enfin voilà, au mec, quoi. donc non, je reste à LA. Et donc, New York, ça a eu plein de choses extrêmement, je sais pas, Déjà, je sais pas, t'es là, t'es à New York, Greg. Tu dois sentir ce truc, quoi, cette espèce d'ouverture, les gens qui te sourient. Moi, il y avait un espèce de truc naturellement où je crois que quand je suis arrivée à Paris, je me suis dit, mais je vais mourir, quoi, si je reste ici. Je suis désolée, j'adore Paris et tout, mais j'essaie d'être honnête dans ce podcast, un peu comme Yann Moix, je suis très honnête.
Et on parlera pas des mecs de 50 ans. On va parler des mecs de 50 ans, mais...
Il y a rien à dire sur les mecs de 50 ans, c'est comme les mecs de 30 ans, c'est comme les mecs... Voilà, c'est un âge, c'est tout. Bref... Non, mais je veux dire, voilà, j'adore, et vraiment, mais j'adore cet esprit positif, accueillant. Putain, mais voilà quoi. Pour moi, ça suffit. Quand j'ai découvert ça aux États-Unis, je me suis dit, bon, je crois que vraiment, je suis pas née au bon endroit, parce que tu me connais, même dans les moments les plus nuls, les plus durs, je fais une blague, je me moque de moi-même, je ris, je suis gentille, je souris aux gens. Donc voilà, donc là, j'ai l'impression de retrouver ma famille. Et par rapport au travail, parce que je sais que ton émission, c'est pas une émission de psychanalyse, c'est une émission de business, donc je veux bien que tu peux me poser des questions.
C'est pas business, c'est sociaux. C'est beaucoup plus sociaux que business.
Ouais, ok, bon, n'hésite pas à me rediriger vers des choses que moi, attention,
j'ai une question
sur la
relation Marc. Hein.
Ouais, donc, bon, ok, non, n'hésite pas, la carte. Ouais, c'est moi. Et on est une compagnie où on favorise, on aide, on écoute vachement nos employés. Quand ils veulent déménager, on les aide, on voit si on peut continuer à travailler. Avec. Enfin, vraiment, moi je vois le travail, j'ai beaucoup de choses à dire sur le travail et je vois ça, je trouve qu'il est temps de changer tout ça. Bref, ici j'avais des opportunités pour pouvoir me développer plus facilement et puis surtout, il faut que je dise quand même que pendant 2-3 ans où j'ai habité à Paris, mais les portes étaient toutes fermées et que je suis arrivée aux États-Unis et que tout le monde voulait écouter mes idées, quoi.
Ouais.
Et donc, j'espère, parce que ça fait longtemps que je suis partie, que Paris a changé. J'ai l'impression que ça a peut-être changé, parce que j'ai pas mal d'amis qui veulent rentrer et tout ça. Parce qu'on vit aussi des moments difficiles en ce moment aux États-Unis. Mais y a cette espèce de mythe hein, sur la réussite à l'américaine et tout. Mais moi, j'ai trouvé que c'était une réalité, quoi.
Ouais. Et pourquoi le mouvement LA, alors, du coup ?
Et ben ça, ça correspond à mon histoire personnelle. C'est la recherche d'une vie différente. Et bon, alors encore une fois, je pense que ça tombe aussi à un moment où tout le monde veut la même chose.
Là, t'es un peu en avance de phase. En plus, tu sais, il y a les gens qui te disent qu'ils le veulent. Ouais. Moi, quand je suis parti vivre à New York, les gens m'ont dit t'as trop de la chance. Alors, c'est pas exactement de la chance. Hein.
Ouais, c'est-à-dire, j'ai pris un billet d'avion. Et...
C'est
ouais.
Ça, j'ai pris un billet d'avion, j'ai payé un cabinet d'avocat pour faire un visa, et puis je suis parti avec ma bite et mon couteau, en gros. Hein, parce que, en gros, moi, j'avais pas de job, j'avais rien, donc je suis parti comme ça, en fait.
Ouais,
donc, c'est pas de la chance.
non.
C'est pas précisément de la chance. C'est, c'est pareil. C'est-à-dire que, oui, alors bien sûr, il y a plein de gens qui disent ah, LS, ça a l'air génial, mais enfin, faut le faire, quoi.
Ouais, faut le faire.
C'est de sa famille, et puis, enfin.
Ouais, bon, moi, ça, j'ai pas trop de problèmes, et puis ma famille, elle vient, et puis. Non, je sais pas trop. Je sais pas. Par rapport à ça, ça me pose pas trop de problèmes. J'ai toujours su que je serais. Il y avait un truc de l'éloignement de voyage et tout dans ma vie. Après, j'ai jamais trouvé les déménagements très difficiles.
D'accord.
Donc voilà. Donc pour moi, c'est dans ma nature et je pense que ça continuera parce que mon astrologue m'a dit mais laisse tomber, c'est pour toujours. J'ai dit bon, ok.
Moi, je suis un peu.
Comme j'écoute mon astrologue.
Ouais, bah, moi pareil.
Ouais.
Je voyage.
Voilà, donc je voyage. Je voyage. Elle dit bon, on te croit pas que tu vas te fixer parce que ça va pas. Non. Bref, j'ai aucun problème à faire ça. Alors bon, en plus avec le métier que j'ai, je connais des gens dans le monde entier. Donc j'ai jamais cette espèce de truc où t'arrives, ça m'est arrivé une fois quand j'ai déménagé à Marseille ou à Paris un petit peu où je me disais oh putain mais ça y est je suis dans une ville, je connais personne. C'est fini ces temps là, tu vois, avec les médias sociaux, avec les gens, enfin bon nous d'autant plus parce qu'on est des connecteurs mais je veux dire pour tout le monde aujourd'hui c'est, tu trouves une communauté, tu fais site, enfin c'est, donc ça c'est pas difficile. Après, le reste des trucs que les gens appellent difficiles, moi, je le fais tout le temps, parce que j'ai tout le temps des changements dans ma vie, que ce soit.
Quel conseil tu donnerais d'ailleurs ? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent seuls, en particulier, alors New York, c'est quand même une ville dans laquelle tu peux facilement te sentir seul. Enfin, plus la ville est grande, plus tu ressens la solitude. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux gens pour qu'ils se sentent pas seuls ?
Bah, sentez-vous seul.
Ouais.
Enfin, je veux dire, moi, quand j'ai un seul exemple à donner, parce que mon problème, c'est plutôt...
De pas être seule.
Non, en fait, non, parce que j'ai des moments où je suis seule. Tu vois, quand je suis arrivée. Alors, deux exemples. Quand je suis arrivée à Marseille, là, j'étais vraiment seule. Et c'était horrible. J'ai commencé au début à regarder la télé pendant des heures et des heures et des heures. Et un jour, je me suis dit, non, mais c'est pas possible, tu vois. Et mais j'étais seule. Quand t'es seule, tu sais, en plus, j'étais jeune, j'avais 20 ans.
Ouais,
je savais, je savais pas faire des choses par moi-même, j'avais pas beaucoup de fric, enfin, tout ça. Et en fait, je suis allée au bout de cette solitude. Et au bout de cette solitude, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait mon premier dessin, en fait. Et j'ai compris quand même ce que ça, l'importance symbolique que ça avait de se dire, putain, mais en fait, quand t'arrêtes de te perdre dans les gens, il y a des choses qui se passent. Ouais. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est LA. J'arrive et tout. Et puis, quand je suis partie à LA, c'était un changement assez radical pour moi. Je suis quand même en quête de ma vérité et tout ça. Donc, LA, c'est quand même un centre du monde, l'un des centres du monde de la spiritualité, de la découverte de soi et tout ça. Donc je savais consciemment que j'allais vers là et que c'était un choix vraiment personnel. Et donc l'une des décisions que j'avais prises, c'était de surtout pas essayer de remplir le vide, parce que c'est la première chose qu'on fait. Ben, alors, je connais, qui j'appelle, aller, on boit un café. Bah,
le
tout.
Principe du téléphone, enfin, Instagram, voilà. C'est le remplissage de vide par exemple.
Voilà, donc surtout pas essayer de remplir cette vie par des gens ou des amitiés un peu médiocres ou des choses comme ça, ce que je suis très capable de faire comme tout le monde.
Voilà.
Donc là maintenant, j'ai quelques années de plus et j'étais tout à fait capable de le faire. Et ça a été dur, tu vois, mais pas dur de pas retomber dans le truc. C'est-à-dire, je me disais ce week-end, je vois personne. J'ai personne qui m'intéresse à voir. Je connais pas encore assez de monde et tout. Je reste chez moi. Je vais faire, des trucs de maison avec mon chien, trucs à la con. Je vais faire un dessin. Je vais lire un bouquin. Ce qui est dur, c'est pas la solitude. Alors évidemment, il y a les moments de FOMO. Samedi soir arrive et tu te dis, mais j'y crois pas, quoi. Je suis là toute seule chez moi. Mais ce qui est le plus dur, c'est justement de pas attraper son téléphone pour appeler n'importe qui, pour faire n'importe quoi, te retrouver dans une soirée naze. Aller au ciné avec un con, tous ces trucs-là.
Après, tu préfères être chez toi avec un bouquin.
Ouais. Donc voilà, ça, j'ai vraiment essayé de le faire consciemment. Et petit à petit, sont arrivés dans ma vie des gens qui, toi, que je peux inviter avec joie. Et j'ai vraiment appris ça, quoi. Et ça, ça a été les deux dernières années. Ça a été très, très important. Puis surtout, justement, dans ce monde de multitude où on est. Là, je reviens de Paris. Et c'était vachement dur. On en a parlé, je crois, non, je te l'ai pas dit.
Non. Mais non, parce qu'on s'est
dit. En général, ouais, c'est vrai. En général, quand je vais dans une nouvelle destination, je le poste après être partie, parce que ça me pose toujours des problèmes. Et là, j'en avais marre et j'avais envie de poster un truc dans mes stories et j'ai posté que j'étais à Paris. Mais je me suis fait assaillir de gens qui.
Mais tu m'as pas vu.
Ouais, on se voit.
Moi, j'ai eu de la chance, on s'est vu à la sortie de l'avion, donc.
Ouais, mais parce que je te choisis aussi. Enfin, ouais. Tu vois ce que je veux dire. Tu crées des moments pour les gens. Mais maintenant, il y a une espèce de truc comme ça où on est censé être disponible et puis on doit se justifier tout. Et partout où je vais, c'est comme ça. Je pense qu'on a tous le même problème. Hein. Par exemple, si tu dis non pour boire un café avec quelqu'un et qu'après tu poses des trucs comme quoi t'es allé prendre un café avec quelqu'un d'autre. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Les gens, ils deviennent fous, ils supportent pas et c'est tout clair. Ça, quoi. C'est pas mal, en fait, parce que finalement, ça nous oblige à prendre de faire des vrais choix et de dire je suis désolée, j'ai pas le temps. Le temps pour toi.
Ça peut être vexant.
Ça peut être très très vexant, mais je crois que il faut assumer, quoi.
C'est ça.
Ouais.
Et alors du coup, justement, alors on parlait tout à l'heure dans ta relation aux marques, est-ce que tu crois, je vais te poser une question directe, mais est-ce que tu crois qu'on peut encore faire confiance aux influenceurs, ou je sais pas comment appeler ça, ou des personnes qui ont des relations avec des marques particulières ou qui sont rémunérées par des marques pour parler d'un produit ou d'un service, est-ce qu'on peut encore faire confiance à ces gens-là qui ont des X milliers de followers, ou est-ce qu'ils sont achetés, que du coup par définition il n'y a plus vraiment de lien réel comme ça pouvait être le cas avant d'ailleurs?
Non, évidemment c'est fini tout ça, quoi.
Ouais.
Il n'y a pas d'autre. Enfin, il n'y a pas besoin d'en épiloguer pendant 3 heures, c'est fini. On en est à l'endroit où on était avec les magazines il y a 10 ans. Tu les lis, tu vois, s'il y a un truc qui t'inspire, mais tu n'y crois pas vraiment, quoi.
Ouais.
Donc tu sais que les produits, tout ça, c'est acheté et tout machin. Donc non, il y a vraiment un truc comme ça qui se crée, et malgré tout ce qu'on peut en dire, je veux dire, il faut être réaliste. Dès que l'argent se met au milieu, on change d'époque, quoi. C'est ouais. tout. C'est, il y a pas. Après, oui, il y a des gens qui font attention aux marques qu'ils choisissent. Moi, j'en fais partie. J'essaye de faire. Mais ça n'empêche pas que quand je suis payée, je peux pas dire exactement ce que j'en pense.
Bah non.
Après, je choisis des marques qui me plaisent. Je Bien choisirai sûr. Jamais des trucs où. Voilà, mais non, mais faut arrêter. Je crois qu'on a trop essayé de, en fait, on essaye trop aujourd'hui de tout concilier et ça rend les gens fous. C'est tout, quoi. On peut pas être à la fois, comme tu vois, je sais pas, Beyoncé ou quoi. On peut pas être à la fois commercial, à la fois rebelle, à la fois, c'est pas vrai, c'est des conneries. Non, voilà, ça. C'est tout, quoi. Beyoncé, c'est un produit marketing, son féminisme, c'est un produit marketing, toutes ces choses-là. Donc voilà, après, on peut en tirer quand même des choses bien, on peut aimer sa musique, on peut être inspiré par son côté féministe, enfin, moi, je le vois pas trop, mais voilà. Mais il n'y a pas de résistance, enfin, j'y crois pas du tout à ces trucs-là. Mais en même temps, je viens des années 90, moi. Donc, moi, j'étais rock indé, tous ces trucs. Je viens d'une autre époque et je trouve que c'est dur aujourd'hui parce que tout est récupéré, en fait.
Ah bah, ça, c'est clair. Ouais. Et alors, du coup, comment tu gères ta relation aux marques aujourd'hui? Qu'est-ce que tu leur proposes, enfin, quand il s'agit de ça, vraiment?
Ben, en fait, on continue. Alors, il faut que tu saches que moi, je travaille pas nécessairement directement avec les marques.
Ouais.
Je travaille avec quelques marques. Ouais. Voilà. C'est mon studio qui travaille avec les marques. Et on garde quand même une approche hyper personnelle, hyper made to measure. Tu vois, on essaie d'avoir un rapport direct. On essaye le plus qu'on peut travailler avec la marque directement, le créateur directement, de pas passer par des agences. On a été contente, là on parlait ce matin, j'avais une réunion avec mon équipe où apparemment les marques commencent à reprendre leur communication en main personnellement, parce que c'est vachement compliqué de parler avec des agences qui ont une idée de ce que le client veut peut-être faire, et c'est tout dans l'interprétation, et finalement le message il est perdu. Donc on a quand même et puis on essaye de parler. Moi, c'est quand tu travailles, alors bon, c'est pas tout le temps pareil, mais disons que t'as 50 intervenants entre le client, le designer, la personne qui a fait un produit et qui veut la vendre, et toi. Moi, je me retrouve à. Alors, on me dit, bon, alors, prenons un exemple, faire la promotion d'un parfum ou d'un truc comme ça. Je sens le parfum, je regarde l'idée, le tout, ça me plaît vachement, je dis ok, je le fais. Alors après, il y a 50 intervenants. Si je parlais directement avec le créateur, on pourrait trouver un truc. Mais le problème, c'est qu'il y a 50 personnes qui me disent ce qu'ils croient que le créateur voudrait. Ouais. À la 50e personne, je me retrouve à devoir mettre ma tête à côté d'une boîte de parfum. Ce que je pense que la marque ne veut absolument pas faire parce que c'est cheesy et c'est nul et plus personne ne veut faire ça. Mais il y a tellement de peur, il y a tellement de filtres, il y a tellement de trucs que ça ne marche pas. Donc en fait, nous, on sait que quand même, on est là pour gagner de l'argent, mais on essaye quand même de tirer. On essaye de le faire de manière intelligente et de pas mentir et d'être le plus honnête possible. Voilà.
Ok. Et alors, je suis déjà arrivé à la fin, mais ce podcast, il s'appelle Vlan.
T'es déjà arrivé à la fin, ça y est, on a fait 25 minutes.
33 minutes.
33. Et après, tu vas éditer un peu.
Un petit peu. Et alors, du coup, ce podcast s'appelle Vlan.
Ouais.
Alors j'ai une dernière question où je t'ai pas prévenu, j'ai oublié.
Mais je connais quand même ton podcast.
Et ben voilà. Et ben alors je vais te demander à qui ou à quoi tu voudrais claquer la porte aujourd'hui.
Moi je me suis fait une promesse et c'est d'être le plus vrai possible. Et je sais que les gens diront mais tu l'es déjà parce que ça fait on m'a toujours parlé de mon authenticité et tout. Mais pour moi je pense que c'est vraiment il faut que j'y aille encore plus, voilà.
Ouais, et en même temps, je suis assez convaincu qu'il y a plein de gens qui considèrent que parce que tu es Garance Dorée ou parce que ta vie est faite de strass et paillettes, en tout cas qu'ils imaginent, alors par définition, c'est forcément faux ou t'es mal placé pour te plaindre, tu sais. Enfin, tu vois, je pense
mais
qu'il y a
je
pas
me
mal
plains
de gens. Il y a pas mal de gens qui peuvent avoir ça en tête, je crois. Mais j'en sais rien. Peut-être que je me trompe.
Je sais pas, on s'en fout en même temps.
Ouais, je crois.
Ouais, c'est ce que les gens en pensent. Et non, mais voilà, moi c'est pour moi. C'est parce que je me rends compte que plus je suis honnête et plus je suis vraie avec les gens. Et plus j'ai des relations géniales, et plus j'ai des gens bien dans ma vie, et plus je fais des choses qui m'intéressent et tout ça. Donc, coller le plus possible à ma vérité, c'est ça. Donc, je sais pas comment on peut retourner ça.
Je claque la porte.
Ouais, c'est ça.
Je claque la porte.
Ouais, ouais. Mais t'as un nouveau tatouage ?
Mais non, il a toujours été là.
Qu'est-ce qu'il dit ton tatouage ?
Il dit ce moment aussi passera.
Ah, c'est bien, enfin, pour finir le podcast.
Exactement.
Ouais.
Merci beaucoup, Garance.
Je t'en prie.
Ciao. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.